Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Avec Kamsa Archi.
C'est parti! Bienvenue dans cet épisode court sur un objet culturel. Cette semaine, il n'est pas coutume, on va enfin parler de musique, car vous êtes plusieurs à nous avoir sollicité sur l'épineuse question du rap. Aimer le rap, certains ou certaines artistes, certaines chansons, se traiter mutuellement de bitch ou encore bouger son boule, serait-ce antinomique avec le féminisme ? Alors plutôt que de répondre à cette question qui nous semble quelque peu éculée, on va plutôt s'intéresser à la situation des femmes qui produisent des contenus culturels au sein de cet écosystème très masculin. C'est assurément une position atypique. Alors, quel type de discours cela produit-il et comment ces artistes négocient-elles avec cet environnement hostile? On va en parler cette semaine avec toi, Kaoutar. Salut.
Salut, Clémentine. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un débat très ancien qui revient inlassablement. Le rap et les rappeurs seraient substantiellement sexistes, une sorte d'incarnation du patriarcat au bout du micro, la cible à abattre, ce qui ferait définitivement disparaître la domination masculine de la surface de la Terre.
Mais oui, bien sûr.
Tout à fait. Alors, de ce type de propos, de ce type d'arguments selon lesquels le rap et les rappeurs seraient en eux-mêmes sexistes, tout d'abord, on peut retenir une première chose, à savoir que le rap aurait pour sorte de territoire matériel et symbolique d'appartenance quasi naturelle la banlieue. C'est quelque chose qui se questionne profondément. Ensuite, l'idée que le sexisme serait le propre d'un groupe fantasmatique qu'on va nommer les jeunes de banlieue, et on retrouverait finalement ce sexisme dans la musique qu'ils produisent. Et enfin, ce type de représentation raciste ferait porter la responsabilité du sexisme sur un groupe d'hommes spécifiques, des hommes racisés, impliquant que les autres hommes, blancs en l'occurrence, seraient eux complètement baignés et baignants dans l'imaginaire égalitaire.
C'est bien connu.
Tout à fait.
Ça ne concerne qu'une minorité de personnes.
Exactement.
Alors effectivement, ces quelques remarques générales ont été abondamment étudiées et déconstruites par des chercheurs, des chercheuses, des journalistes et évidemment par les artistes elles-mêmes en premier lieu. Et à cet égard, on peut citer les propos éloquents de la journaliste Héloïse Bouton, qui est fondatrice de Madame Rap. C'est le premier média en France dédié aux femmes et aux personnes LGBT dans le hip-hop. On l'écoute.
Je suis féministe et j'aime le rap. Et là, souvent, j'entends pas de « ouh, ah, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Mais là, normalement, quand je dis ça, tout le monde se crispe et me dit « mais non, c'est pas possible, tu peux pas être féministe et aimer le rap. C'est antagoniste, le rap, c'est hyper sexiste, hyper homophobe, hyper misogyne. Qu'est-ce qui se passe ?» En fait, bah moi, j'ai mon histoire féministe est hyper inscrite dans le rap et dans le hip-hop parce que j'ai toujours aimé le rap. J'ai fait de la danse hip-hop très jeune, à un niveau quasi semi-professionnel, à une époque. Et c'est paradoxalement, notamment par le rap et par le hip-hop, que j'ai découvert le féminisme.
Elle rappelle aussi que le sexisme musical, tu l'as dit, n'est pas réservé au rap. Je la cite. « Vous le savez, le rap serait la musique la plus sexiste qui ait jamais existé. Ah bon ? Dans ce cas, expliquez-nous pourquoi Georges Brassens, Metallica et Robin Thicke traitent les femmes de salopes et pourquoi Guns N' Roses, Johnny Cash et Johnny Hallyday racontent des féminicides en toute tranquillité. Une question de point de vue sûrement. Et puis, ce sont des artistes, des créateurs, des narrateurs distanciés qui usent de second degré. Pire, ces messieurs sont même érigés en icônes atemporelles, flambeaux de notre héritage culturel. Pas du nôtre, en tout cas. »
Alors une fois que cela est posé, on peut peut-être entrer dans le vif du sujet et tenter de comprendre les expériences, la condition et les luttes des femmes dans les mondes du rap. Donc je dis les femmes dans les mondes du rap, car ces dernières y sont présentes de longue date et elles y occupent des positions particulièrement diversifiées. Elles sont artistes, bien sûr, mais elles sont aussi techniciennes du son, elles sont manageuses, elles sont directrices de labels, attachées de presse ou encore réalisatrices de clips. À cet égard, je rappellerai notamment l'initiative assez heureuse, même très heureuse, qui a été prise par la journaliste et éditrice Wafa Mamesh, qui a mis en place en juin 2019, avec le soutien de Dielna, un cycle de rencontres titré « Femmes cachées » et dont la première conférence se proposait de mettre en valeur les femmes cachées derrière les micros. À cette occasion, Wafaa Mamesh a échangé avec Netama Guigues, attachée de presse indépendante, Pauline Duarte, directrice de Def Jam France, et Daphné Weil, qui est manageuse. L'enjeu, nous semble-t-il, n'est donc pas tant de savoir où sont les femmes dans les mondes du rap, mais plutôt de comprendre de quelle manière l'organisation de cet espace artistique, professionnel, économique, tend à minorer les contributions féminines qui en assurent pourtant la pérennité et l'existence. À cet égard, quand Wafaa Mamesh dit rechercher les femmes cachées derrière les micros, la métaphore des micros ici qui se dressent comme un mur, ou les micros que l'on tend difficilement aux femmes, ou encore les micros que l'on s'empresse de reprendre, voire les micros que l'on confisque, réfère plus que jamais, de manière extrêmement juste, à ce qui nous intéresse, à savoir le système androcentrique, ou dit de notre manière, ce mode de pensée genré qui envisagerait et célébrerait prioritairement les actions des hommes au détriment de celles des femmes. Qu'en est-il alors des femmes qui rappent ?
Je pense qu'il faut d'abord faire un tout petit rappel historique, puisque le nom de Salia s'impose immédiatement quand on pense au rap en France. En effet, elle a été vraiment une des pionnières de l'émergence du rap dans les années 80, et surtout la première femme présente sur une compilation de hip-hop, la célèbre Rap Attitude. Oh, yeah. Fan de tempo, arme charme, sont ses mots au quotidien. Donc à 24 ans, elle présentait aussi un second album titré Résolument féminin, où elle s'attachait à travers le morceau 16 ans, 9 mois et un bébé sur les bras à faire exister la lutte des femmes au sein même de ses textes de rap. Semaine après semaine, le temps passe, c'est cool. Le retard se fait long, le bien-être s'écroule. Panique, que se passe-t-il dans ce corps? Le test est positif, oh, changement le décor. Et donc, sans pouvoir tendre ici vers l'exhaustivité, on peut quand même considérer aussi que la place qui a souvent été accordée aux femmes artistes dans le rap, c'est celle de la choriste, qui assure principalement des refrains chantés à une époque où l'autotune n'existait encore que peu et ne permettait donc pas à ces messieurs de moduler leur timbre de voix. Et là, c'est vraiment un lieu typique d'invisibilisation du travail artistique des femmes. D'ailleurs, malgré tout notre amour pour Akhenaton, IAM, et si on reconnaît aisément la partie centrale des membres de la Funky Family. La jeune femme qui a assuré le refrain des Bad Boys de Marseille, elle n'a été que très rarement créditée, bien qu'elle ait participé au clip. Donc il faut savoir que cette jeune femme qui s'appelle Karima faisait partie d'une manière quelque peu ambivalente de la Funky Family.
Oui, effectivement, et c'est là où on voit tout l'intérêt des entretiens que réalise l'ABCDR du son avec les rappeurs, puisque dans un entretien datant de 2010, le rappeur de la Funky Family, Sat, ou Sat l'artificier, confiait à l'ABCDR du son, elle, Karima, avait intégré le groupe quand on était dans cette période très funk, parce qu'on voulait des refrains chantés. C'est Pone qui l'avait rencontrée. Elle avait chanté un morceau du Ra et de Don Chua, et on avait vraiment accroché avec sa voix. Donc on lui avait dit que pour nous, c'est comme si elle faisait vraiment partie du groupe. Et elle était avec nous sur scène ce fameux soir où on a rencontré IAM, et ce qui fait qu'elle a aussi, du coup, participé à l'album Metakemat. Le truc, c'est que depuis, on avait pris une sorte de virage plus dur. Elle avait de plus en plus de mal à trouver sa place dans l'équipe jusqu'au moment où on s'est rendu compte que c'était plus la peine. Ça s'est terminé froidement. Elle a voulu arrêter le chant pour se mettre au rap, mais ça ne collait pas. Ben, je trouve que cet entretien, il est vraiment très intéressant parce qu'il dit comment dans des relations interpersonnelles, dans quelque chose d'un groupe qui est en train de se produire, quelque chose de la négociation de la place des femmes se révèle. Et c'est une négociation évidemment difficile.
Surtout, on voit ce qui est systémique dans les trajectoires individuelles.
Tout à fait.
Évidemment.
Évidemment. C'est au début effectivement des années 2000 que les femmes vont cesser d'escorter, on pourrait dire presque musicalement, les rappeurs, et qu'elles vont s'imposer avec une forme d'autonomie accrue. Elles ne sont plus derrière les hommes et derrière les micros, elles sont à l'avant de la scène et c'est elles qui tiennent les micros et qui rappent. À cet égard, Lady Lesti a joué un rôle fondamental avec son album Black Mama et le morceau très connu Et si je t'avais dit combien je t'aimais mon frère, qui va marquer un tournant dans l'histoire des femmes dans les mondes du rap. Et si je t'avais dit combien je t'aimais mon frère, et si on t'avait dit baisse pas
pas les bras sur cette terre. Pour et si, si t'as perdu un être cher. Et si, si, tout simplement si.
Et évidemment, un peu plus tard, on va assister à la montée en puissance d'une certaine Diams, qui était présente de longue date dans les couloirs du rap, qui en 2006 va remporter le disque de Diamant après que son album Dans ma bulle se soit vendu à plus de 750 000 exemplaires.
Ah ouais, on déconne, ouais, ouais.
Et au total, pour info, tout album confondu, on estime qu'au terme de sa carrière, elle aurait vendu environ 1 300 000 disques. Et à titre comparatif et au regard de carrière singulièrement distincte, notamment en raison des contextes dans lesquels elle s'inscrivent, on peut quand même souligner que MC Solar a vendu environ 3 500 000 albums et NTM environ 1 500 000, ce qui, d'une certaine manière, témoigne quand même des performances commerciales de Diams. Et on pense aussi par ailleurs à l'immense Princesse Agnès qui a rappé Si j'étais un homme.
J'étais un homme, est-ce que je me contenterais de ces propos en me disant que l'émancipation s'est faite malgré nous trop tôt, qu'il faut pas confondre les rôles des dominants, dominés, obstinés comme la MLF, condamner cette gente à sa destinée.
Mais aussi à l'immense Kazay et on pense bien évidemment à Kenny Arcana.
Et cette liste, encore une fois, n'est pas exhaustive. On pourrait revenir à chaque fois sur des trajectoires très, très particulières ici. Malgré, on pourrait dire, la richesse de cette scène rapologique, on peut être frappé par ce qu'on pourrait appeler la faiblesse de l'attention qui a été portée aux rappeuses en comparaison à l'attention qui a été portée aux rappeurs. En 2005, le documentaire de la réalisatrice Kera Mameri, titré « On s'accroche à nos rêves » et qui réunit quatre actrices du mouvement hip-hop, Lady Alésia, DJ Pom, Magali et Princesse Agnès, va nous faire découvrir les parcours de ces femmes au sein d'un univers masculin et en plus particulièrement virilisé.
Quand j'ai commencé le rap, je me suis pas dit « Ouais, putain, y a que des mecs et tout, comment je vais faire, ça va être dur, comment on va me regarder, est-ce qu'on va me juger et tout ?» Non, voilà, j'aimais écrire, j'aimais rapper, donc j'ai commencé à faire ça.
Quelques années plus tard, en 2010, paraît l'ouvrage Fly Girls, c'est l'équivalent, on pourrait dire, des B-Boys, et il est sous-titré, cet ouvrage-là, Histoire du rap féminin en France. Il a été coécrit par Antoine Doll et la rappeuse Stestros pour qu'une sorte de forme livresque de valorisation des trajectoires féminines dans le rap émerge enfin.
C'est ma vie, mon histoire, idem à la tienne, on s'accroche en l'avenir, on peut croire.
D'ailleurs, ce livre, qui est important à tous égards, n'en demeure pas moins traversé par certains stéréotypes de genre, comme celui-ci, je cite, « Les vrais bonhommes sont ceux qui introduisent des meufs dans le mouvement et les font respecter ». Alors, si d'autres pratiques de valorisation des artistes femmes ont continué à être mises en place, à titre d'exemple, il faudra attendre 2019, donc l'année dernière, pour qu'une compilation de morceaux d'artistes féminines voit enfin le jour. Il a été porté par le collectif La Souterraine et il s'appelle Rap de filles souterraines. Donc les créateurs présentent ainsi cet album, on les cite. Tout nous intéresse dans les filles du rap aujourd'hui, d'abord parce qu'il est désespérément minoritaire alors que le genre est largement hégémonique. Tout le monde connaît Booba, PNL, Caris, etc. Mais qui peut citer les noms de trois rappeuses françaises ? Cette invisibilisation est encore plus peinante quand on se limite au rap underground. Dans le jeu des freestyles de rap, on compte des rappeurs masculins par milliers, voire dizaines de milliers. Chez les meufs, elles sont probablement moins de 500. Paye donc ton inégalité. Aussi étonnant que ce soit, le rap de filles souterraines est la première compilation de rap français 100% féminin de l'histoire de la musique. 12 meufs originaires de partout en France. Caen, Châteauroux, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lille, Livry-Gargan, Maubeuge, Montreuil, Niort, Paris et ailleurs, le Gabon, Montréal. Deux sont en voie de professionnalisation appuyée, sinon elles sont livreuses, animatrices en centre de loisirs, pilotes conditionneuses en ligne et d'autres dans l'agroalimentaire, secrétaires de gestion ou bien rien de tout ça. En tout cas, écoutons bien parce qu'il y a clairement là du talent de ouf. On est bien d'accord.
On est bien d'accord. Et une autre forme importante de valorisation des contenus produits par les rappeuses passe indéniablement aussi par la production d'un discours critique qui va assurer à l'œuvre des formes de médiation. Le discours universitaire en est un exemple assez flagrant. À ce propos, en 2010, le sociologue Karim Amou, qui est l'auteur de l'ouvrage « Une histoire du rap en France », écrivait dans son carnet « Hypothèse » sur un son rap que je vous recommande vivement de visiter et de suivre. Karim Amou écrit donc « Les ouvrages de référence sur le rap qui ne sont pas d'ailleurs nombreux, n'accordent que quelques pages aux filles du mouvement. Mais lorsqu'ils abordent le thème des rappeuses françaises, tous sont unanimes pour expliquer les difficultés qu'elles ont à s'intégrer et à se faire reconnaître par leurs homologues masculins. Le sujet des rappeuses n'a donc pas, à l'heure actuelle, été encore étudié par les sociologues. Et on était là en 2010. Une décennie plus tard, on peut donc se réjouir de l'émergence de recherches qui éclairent les dimensions genrées et de là les rapports sociaux de pouvoir face auxquels les femmes rappeuses se trouvent confrontées, et cela selon une approche transnationale.
Ainsi, le chercheur Kevan Javadzadeh, dans un article paru en 2018 dans la revue Mouvement, note à propos des rappeuses états-uniennes, je le cite, « Le rap féminin a su résister à la montée de l'hégémonie du gangsta rap dans les années 90-2000. Les rappeuses ont non seulement rejoint les rappeurs dans la dénonciation des discriminations, mais aussi retourné le stigmate de la bitch et les codes du gangsta rap. » Confrontées aux représentations hypersexualisantes des femmes noires, les rappeuses hardcore subvertissent le discours dominant sur la sexualité, revendiquent le contrôle sur leur propre corps et dénoncent les relations de pouvoir qui se jouent dans l'intimité. Elles ont amené la révolution sexuelle dans le hip-hop et poursuivi le travail de politisation du privé déjà entamé par les rappeuses de la génération précédente.
Par ailleurs, et ça me semble d'un immense intérêt critique, la situation des rappeuses au Gabon, au Québec, en Amérique latine, est respectivement éclairée par le travail d'Alice Adrianus Owanga, par le travail de Claire Sachet et par celui de Lise Segas. Ces travaux décrivent la condition minoritaire, ambivalente et complexe des rappeuses dans des espaces musicaux structurés par une normativité masculine, certes, mais aussi au sein desquels les artistes femmes n'ont jamais cessé d'imaginer des stratégies de résistance, de retournement du stigmate et de thématisation musicale de leur propre vécu à l'intersection du racisme et du sexisme. Les femmes rappeuses sont donc, comme dans les mondes de la peinture, du cinéma, du théâtre, sous-représentées comme sujet créatrice et sur-représentées comme objet du discours. On est donc là finalement face à une situation des mondes du rap qui rejoignent les mondes artistiques en général.
Je pense qu'on ne peut pas se passer d'évoquer les rappeurs et les rappeuses LGBT+, et queer, qui sèment aujourd'hui le trouble. D'ailleurs, on voit qu'il a été souvent compliqué de faire son coming out dans ce milieu, comme dans d'autres milieux, rappelons-le. Il y a d'ailleurs eu tout un tas de spéculations autour de la sexualité fluide de Frank Ocean. Heureusement, ces personnes-là sont de plus en plus visibles dans cet écosystème. On peut citer à cet égard Tyler, the Creator, qui a commencé sa carrière avec des paroles homophobes pour finir par faire son coming out. Quelle trajectoire.
Quelle trajectoire.
On peut aussi mentionner Mickey Blanco qui chante sur scène en mini-shirt et en soutif, ou encore Angel Hayes qui est bisexuel et ne le cache pas. Moi, de mon côté, j'avais eu la chance de rencontrer Big Frida au festival Loud and Proud de la Gaîté Lyrique. C'est une personne qui s'inspire du courant Bounce qui vient de la Nouvelle-Orléans et qui a d'ailleurs fait un featuring sur le Lemonade de Beyoncé, donc pas mal.
Pas mal en effet. La question qui se pose est donc de réussir à envisager de quelle manière, par quelles actions, est-ce que l'on peut soutenir la production rapologique féminine. J'aimerais à cet égard évoquer une initiative qui me semble emblématique de l'enjeu de visibilité qui se pose ici. En effet, le passage à la postérité des artistes femmes se réalise généralement au moyen d'un ensemble de médiations, comme on en parlait précédemment, et qui s'articulent les unes aux autres. Dans les mondes du rap, un outil de pérennisation important des œuvres est ce qu'on appelle le genius ou le rap genius, qui explicite, voire explique, les paroles des textes de rap. Une sorte de communauté de personnes passionnées s'attache donc à faire ce travail de décryptage précieux pour approfondir l'œuvre dans sa dimension textuelle, référentielle, métaphorique, etc. Or, bien sûr, parce qu'il y a un or, un biais sexiste est introduit, puisque les textes des rappeurs sont bien plus largement étudiés, commentés, décryptés, interprétés que ceux des textes des femmes. Comme le suggère alors le sociologue Karim Amou, une manière de réduire le biais serait de se mobiliser en tant que communauté amatrice de rap en investissant davantage les œuvres des rappeuses et en tentant de les faire émerger comme texte, comme œuvre, comme production significative à commenter pourraient donc se dire tous, toutes, sur Rap Genius.
Carrément, on y va.
C'est parti.
Et moi, je voulais aussi, avant de terminer, évoquer quelques morceaux de rap qui parlent de sexualité féminine de manière très frontale, notamment de certaines pratiques comme le cunnilingus. À cet égard, on peut citer « My neck, my back, lick it » de Kaya. Bien Pussy, Diggy, Azalea, même si cette chanteuse est problématique à d'autres égards. On peut aussi citer Jenai Aiko qui parle carrément d'anulingus dans sa chanson Post to Be. On se souvient de la punchline Eating the booty like groceries qui avait marqué Twitter à l'époque. Et en France, on peut se tourner ou pas vers la chanson My Best Plan de Lisa Monet, à écouter si possible au centième degré. Alors, est-ce qu'on a des recommandations plus spécifiques en matière de rap en fonction de nos goûts réciproques ?
Alors, peut-être pour ceux et celles qui souhaiteraient approfondir davantage le sujet, je recommande, bien évidemment en lien avec tout ce que nous avons tenté ici de défricher de manière non exhaustive, le numéro de la revue Mouvement qui a été titré La Battle du Rap, genre classe rap, et qui est récent, il date de 2018, et je conseille aussi bien sûr à chacun et chacune, puisqu'elles sont des actrices centrales du rap français contemporain, de plonger dans le rap de Chilla, de Shy, de Fanny Poly, de Naira, de Billy Brolock, d'Eclos et de beaucoup d'autres femmes rappeuses. Et de ton côté ?
Alors moi, je dois avouer que je m'y connais très très peu en rap. Voilà, depuis que j'ai écouté IAM au collège, il ne s'est pas passé grand-chose dans mes écouteurs. Même si j'aime toujours bien écouter la chanson de Diam's et Vita, Confession nocturne.
Mel, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir.
Et le live, il faut regarder le live.
Ah ok.
Le live est génial.
Je note. Bon, par contre, cette année, j'étais au festival Les Femmes Sans Mêle et là, j'ai découvert la rappeuse sud-africaine Dope St. Jude. C'était vraiment génial de la voir sur scène. Mais à titre personnel, je suis plutôt fascinée par les bijoux très bling des rappeurs et la tension que ça peut créer peut-être avec la virilité. Ouais. Et évidemment, pour déconstruire mon privilège, j'avoue qu'en tant que personne blanche et bourgeoise, je suis plutôt attirée par d'autres rappeuses blanches, ce qui est tout à fait regrettable, comme Aloïs Sauvage. D'ailleurs, vous pouvez écouter son épisode dans la poudre. Et sinon, par des rappeuses féministes comme Princesse Nokia ou Chilla, tu en as parlé. On peut aussi recommander dans la série Insecure le rap que produit la comédienne Issa Rae pour se motiver devant son miroir.
Great. What you gonna ask him? Who's gonna get that dick? You.
Et on peut regarder l'émission de télé-réalité sur Netflix, Rhythm and Flow, qui est une sorte de nouvelle star pour le rap, avec en juge Chance the Rapper et Cardi B. Donc c'est pas mal, ils sont au top de leur game.
That was very spicy. Yeah, it was the hot sauce.
I was waiting for it.
And everybody else with the chicken wings.
Notre Cardi B, tout à fait.
Voilà, alors c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les références dont on parle dans le descriptif de l'épisode. Alors dites-nous si vous écoutez ou non du rap et ce que vous préférez. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et aussi nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Salut, merci Kaoutar.
Merci Clémentine.
Quadmeuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo.
Présenté avec Kaoutar Archi.
Monté et mixé par Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meilleur-Mailleux, prise de son Mathilde Vinet et coordination Ashley Tola.